BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Yves Verrier, merci d'être avec nous, donc secrétaire général de Force Ouvrière. Vous allez écouter ce que va dire le président ce soir ?
Oui, bien sûr. Je suis attentif à ce que le président, qui est quand même le chef de l'exécutif et donc qui a une parole qui importe sur les orientations qu'il décide, qu'elles soient positives ou négatives, on est toujours attentif, bien évidemment.
Est-ce que pour vous c'est un moment décisif ? Est-ce que c'est vraiment un acte 2 du quinquennat, comme on le répète tous un peu en boucle ? Est-ce que pour vous c'est juste une prolongation de ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que vous anticipez ?
Ah ben moi je n'anticipe rien de particulier, je sais pas si c'est un acte 2, c'est pas une pièce de théâtre. Moi je vous sais, je suis démocrate, on peut critiquer les institutions de la 5e République, le président de la République a été élu pour 5 ans, maintenant entre son élection et la politique qui est mise en œuvre sous son autorité, évidemment il y a une marge et là la marge elle est celle de l'expression de mon organisation syndicale sur un certain nombre de dossiers. On est pas du tout d'accord, vous l'avez mentionné, avec le projet de réforme des retraites. C'est la raison pour laquelle on s'est exprimé récemment en sortant de la concertation. On n'est pas d'accord sur le fait qu'on n'arrive pas à admettre dans ce pays qu'il faille augmenter sérieusement les salaires. Nous, on revendique une augmentation sérieuse des salaires.
Oui, la meilleure façon d'augmenter les salaires, c'est de baisser un petit peu les cotisations sociales, patronales, de baisser les impôts. C'est comme ça qu'on peut donner du pouvoir d'achat aux Français.
Non, je ne crois pas, parce que d'abord les cotisations, ça fait partie du salaire, et les cotisations, c'est ce qui finance justement les systèmes de protection sociale, en particulier les régimes de retraite.
Est-ce qu'on n'a pas atteint le maximum du possible en termes de fiscalité, quelle qu'elle soit du reste ?
Non, je ne crois pas.
Il ne faut pas changer nos logiciels.
Non. Il y a deux aspects. Il y a la question salariale. L'OCDE elle-même dit que depuis plusieurs années, les revenus sont distribués beaucoup plus vers le capital que vers le travail.
C'est pas vrai en France, comme vous regardez.
Si, c'est vrai d'une manière générale dans les pays de l'OCDE. Il faut redistribuer plus de salaires vers plus de revenus vers le travail, vers les salaires. Et c'est un facteur de relance de l'économie. L'INSEE a évalué que l'impact des mesures qui ont été annoncées au mois de décembre, la prime d'activité,
l'OFCE en fait.
L'INSEE également, qui a
850 euros annoncé, de pouvoir d'achat.
Plus de pouvoir d'achat, mais un gain en termes de croissance économique, donc d'activité, donc d'emploi. Donc, augmenter les salaires, la France reste un pays dont l'économie est pour partie tirée par la demande, par la consommation intérieure, donc par le pouvoir d'achat des salaires. Ça pose la question européenne, bien évidemment, qu'on arrête de se faire de la concurrence fiscale, de la concurrence sociale entre les différents pays d'Europe.
Oui, enfin, européenne ou chinoise, américaine ou des pays de l'Asie du Sud-Est.
Évidemment. Mais l'Europe devrait être faite pour les travailleurs, pour qu'on harmonise les conditions fiscales, qu'on harmonise les conditions sociales. D'ailleurs, on manifeste vendredi, demain, Force Ouvrière sera présent avec une délégation avec la Confédération Européenne des Syndicats sur la question des salaires, de l'augmentation des salaires partout en Europe.
On attend, mais c'est vrai que certaines mesures ont déjà été plus ou moins dévoilées. Après, on va voir comment le président les remet en perspective, en l'occurrence. On parlait de baisse d'impôts. Le fait d'atténuer l'entrée dans l'impôt sur le revenu en créant deux tranches supplémentaires, est-ce que c'est mieux de créer cet impôt progressif ?
Dit depuis longtemps, il faut refonder l'impôt sur le revenu et l'impôt progressif. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, c'est moitié en recette fiscale de la TVA. La TVA, c'est 150 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu, c'est dans les 75 milliards d'euros.
Oui, et puis surtout, c'est qu'il y a un Français sur deux qui ne paye pas d'impôt. Sur le revenu,
parce que tous les Français payent la TVA, et que vous soyez riche ou pauvre, vous payez le même taux de TVA. C'est là qu'il y a problème. Donc, il faut redonner de la progressivité à l'impôt, redonner des tranches sur les plus hauts revenus, faire que les hauts revenus redistribuent plus. Donc, le taux d'imposition, la progressivité, c'est que le taux d'imposition...
C'est déjà énorme, non ? Vous trouvez pas ?
Je ne crois pas. Je pense qu'il y a nettement de la marge en termes de redistribution. Encore une fois, je vous le dis... Le revenu va beaucoup plus vers le capital depuis de nombreuses années que vers le travail. L'INSEE avait mesuré une baisse du pouvoir d'achat des ménages depuis 2008 de l'ordre de 500 euros. Ça n'est pas rien. Donc il faut redonner de la prime à la relance de l'activité dans tous les territoires par le pouvoir d'achat des salaires.
Juste une question sur la TVA. La TVA, c'était une des propositions de François Fillon et encore de la droite aujourd'hui, puisque je recevais Bruno Retailleau, qui est un peu le leader à droite avec Laurent Wauquiez. Il disait, nous, on était effectivement pour une augmentation de la TVA, mais pourquoi ? Parce que tous les produits importés, c'est-à-dire les produits chinois, les produits qui viennent en dehors, qui sont produits en dehors de France, ils contribuent aussi, en l'occurrence, à la facture fiscale. Donc c'est plutôt bien, sinon pour eux, on est un peu une porte ouverte.
Bien, encore une fois, je pense que l'Europe doit avoir un sens en termes social, elle doit faire en sorte qu'on harmonise d'abord les conditions au niveau européen en termes social, et deux, que l'Europe, qui est un marché important au niveau mondial, du coup pèse sur l'économie mondiale.
Mais l'harmonisation,
est celle des normes sociales dans le monde. Oui. Cette année est celle du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Il faut faire en sorte que l'OIT reprenne le leadership, d'une certaine manière, des organisations du système multilatéral, que les questions sociales s'imposent dans l'ordre économique, que l'économique soit mise au service du progrès social, du respect de normes minimales en matière sociale, et non pas que le social soit éventuellement, dans le meilleur des cas, le sous-produit de l'économique. Ça ne marche pas, c'est le contraire.
Sociale. Juste sur l'harmonisation sociale européenne, vous ne redoutez pas, parce qu'on est quand même, nous, on a un système de redistribution qui est peut-être bancal, mais enfin qui existe. On a un SMIC, on a un RSA, on a des mesures fiscales peut-être insuffisantes, mais en tous les cas, elles existent. Absolument. Une harmonisation fiscale, elle se fera certainement au détriment de notre système.
Et pourquoi au détriment?
Parce que vous ne voyez pas les Polonais, les Hongrois, même les Allemands avoir nos conditions sociales.
Mais mes camarades, j'étais en Bulgarie ce week-end pour une réunion avec les syndicats des pays Balkans sur la question justement sociale, sur la question du rôle des normes de l'OIT, et je peux vous dire qu'en Pologne, par exemple, il y a une grève importante dans le secteur de l'éducation nationale. Sur quoi portait la grève ? Sur les questions de salaire, sur l'augmentation des salaires.
Bien sûr, l'augmentation, mais pour atteindre nos niveaux de salaire, ça va...
Oui, mais à chaque fois que vous augmentez quelque part, vous favorisez un progrès de l'ensemble. À chaque fois que vous diminuez quelque part, et si l'idée est de dire baissons un peu en France, parce qu'il faut faire des économies, moins de dépenses publiques, on fait baisser tout le monde. On fait baisser tout le monde. L'harmonisation, elle se fait vers le haut. Ça a toujours été comme ça. L'histoire s'est faite comme ça. Le progrès social s'est fait comme ça. Il s'est pas fait en baissant là où c'était un peu meilleur qu'ailleurs. Il s'est fait en remontant là où c'est bas et voire trop bas.
Yves Verrier, est-ce que vous êtes, donc vous avez claqué la porte des négociations sur les retraites, est-ce que vous êtes quand même satisfait des déclarations et un peu du coup de poing sur la table de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire en charge des retraites, qui a dit on ne touchera pas à l'âge de la retraite?
Le problème, c'est que le coup de poing sur la table s'est accompagné de l'introduction de la notion de surcote. Il avait déjà évoqué un bonus pour inciter à partir plus tard, mais là, il a ajouté décote. En clair, une sanction si vous partez à l'âge minimal. C'est ce qui a été signé dans les retraites complémentaires, que nous n'avons pas signé, Force ouvrière.
Oui, mais qui marche,
qui fait que celui qui, tout d'un coup, à 62 ans, pense qu'il va pouvoir enfin, parce qu'on l'attend avec impatience dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de métiers, pouvoir partir à la retraite, on lui dit si vous partez maintenant, vous allez être pénalisé pendant 3 ans de 10% sur votre pension. Si vous attendez jusqu'à 63 ans, vous aurez par contre un bonus. En clair, la décote ou le malus, elle fait que on oblige les gens à reculer l'âge de la retraite.
Qu'est-ce qui va vous faire revenir autour de la table?
Je ne pense pas qu'on pourra revenir autour de la table dans ces conditions, puisque nous avions dit justement que le problème que nous pose le système universel, le régime universel par points, c'est qu'on va donner à l'État toutes les manettes, et en particulier celle de la valeur du point au moment où vous faites valoir vos droits à la retraite. Ouais. Si la valeur du point, elle est à la baisse, le moment venu, vous serez obligé de continuer de travailler pour acquérir des points, si tant est que vous ayez toujours un emploi. Parce que le problème retraites, c'est que trop de salariés ne sont même plus en emploi à l'âge de la retraite. Donc commençons par donner un vrai travail, avec un vrai salaire, un vrai contrat, depuis le début dans l'entrée dans la vie active, jusqu'à l'âge de la retraite, et vous verrez espérer que l'équilibre financier des retraites sera plus facile à réaliser.
Mais en même temps, la retraite à points, ce n'est pas ce qui va permettre quand même à chacun de choisir s'il a envie de partir à 62 ans, à 65 ans, à 67 ans.
Mais vous avez déjà le choix aujourd'hui. Personne n'est obligé de partir à 62 ans. Et en règle générale, ceux qui ne partent pas à 62 ans, en dehors de ceux qui aiment passionnément leur métier, qui n'ont pas forcément un métier suffisamment pénible, bien sûr que ça existe. Et ça n'est pas du tout condamnable. Mais la plupart du temps, ceux qui retardent l'âge de départ en retraite, c'est parce que le niveau de la pension, du fait de surcote, du fait qu'on n'a pas toutes ces annuités, ne permet pas. Parce que la durée d'activité est longue maintenant. Il faut 42 ans bientôt.
On
retarde pour pouvoir avoir une pension suffisante pour finir les fins de mois.
En même temps, Yves Verrier, est-ce que l'accord, il se fera sans vous? Non.
Vous savez, il n'y a pas d'accord en la matière. C'est l'État, et j'ai cru comprendre, alors je ne sais pas ce que sont ces rumeurs, mais qu'un projet de loi serait déjà ficelé dans les couloirs ou les bureaux du gouvernement. Donc, en réalité, on ne négocie pas avec le gouvernement. La concertation, on nous consulte. Et la question est celle de la prise en considération ou non de ce que nous disons. Nous n'avons pas le sentiment d'avoir été pris en considération jusqu'alors, et on verra ce que sera le projet du gouvernement. J'espère qu'on sera entendu. Si on ne l'est pas, on mobilisera.
1er mai, il n'y aura pas d'unité syndicale, parce que ça, faut oublier, non, le 1er mai?
Le 1er mai, il y a rarement une unité syndicale.
Non, rarement, comme vous dites. Ça a existé, hein?
Oui, ça existe dans des périodes particulières. La situation, elle est telle qu'aujourd'hui, nous allons manifester dans un certain nombre d'endroits. Dans certains cas, il y aura des manifestations à plusieurs syndicats.
Pardon. On n'est donc pas dans une période particulière.
On pourrait toujours dire qu'on est toujours dans une période particulière.
Non, mais il s'est passé des choses quand même.
Oui, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, bien évidemment. On est confronté à une crise sociale, à une crise politique, je pense également, une crise institutionnelle.
Ça n'aurait pas été l'occasion pour les syndicats de revenir un tout petit peu dans le jeu? Parce que là, le jeu, il se fait sans vous.
Écoutez, le 19 mars, nous avons à plusieurs syndicats appelé à des manifestations. Nous étions quand même, la police a évalué à 130 000, c'était assez bas, je pense, manifestants un peu partout en France.
Ça marche plus.
Ça marche plus. 130 000 manifestants partout en France, plusieurs manifestations dans beaucoup de départements. Ça n'est pas rien, c'est beaucoup plus que la plupart des samedis.
Que les gilets jaunes.
Ça n'est pas rien.
Donc les syndicats, vous mobilisez plus que les gilets jaunes, c'est ça que vous voulez faire passer comme message?
Mais c'est pas la question dont on mobilise plus ou pas plus, est-ce que on nous entend? S'il y a eu, je l'ai dit, les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, il est parti du fait que ceux qui ont rejoint les ronds-points, y compris les syndicalistes Force ouvrière, ont considéré que ce serait peut-être la possibilité de se faire mieux entendre que nous ne réussissons à nous faire entendre jusqu'à maintenant.
Est-ce que vous regrettez quand même ce 1er mai où chacun va défiler dans son coin?
Mais
il
n'y
a pas de message, on voit.
Je ne regrette.
On parle plus de la mobilisation du 1er mai.
Je ne regrette rien. Le 1er mai, c'est une journée internationale de solidarité. Nous serons dans des meetings, des rassemblements, des manifestations et nous exprimons à la fois nos revendications au niveau national, mais également notre solidarité avec les travailleurs qui, un peu partout dans le monde, avec leurs syndicats, vont manifester et parfois sont soumis à des répressions très dures et très difficiles.
Et puis en plus, il y a des plans sociaux, justement. Vous avez alerté sur CEA, l'enseigne d'habillement qui pourrait supprimer 14 magasins. Il y a aussi Saint-Louis, il y a Castorama. Il y a décision qu'on attend sur Ascoval le 2 mai. Est-ce que vous avez un sentiment qu'il y a une multiplication des plans sociaux?
Mais il y a des secteurs qui manifestement, tout ce qui est un peu autour de la grande distribution, on voit bien que ça va très mal. Les salariés sont désespérés. Il faut avoir en tête, quand on nous parle d'économie, de flexibilité, la flexibilité c'est toujours au détriment des salariés qui se retrouvent sur le carreau dans ces conditions-là. Heureusement, on a assez vilipendé l'assurance chômage ces derniers mois. Heureusement qu'on a des systèmes de solidarité que les syndicats ont mis en œuvre. N'oublions pas, Force ouvrière a été à l'origine de l'assurance chômage, par exemple. Force ouvrière a été à l'origine, a longtemps géré la retraite, la sécurité sociale.
Faisait des propositions.
On essaye de faire des propositions, notamment en matière d'amélioration des dispositifs de protection sociale. Sur l'assurance chômage, on a proposé un accord qui pouvait faire en sorte de réduire la précarité en jouant sur un bonus-malus sur les contrats courts. Vous savez qu'aujourd'hui, 40% des CDD sont des contrats de moins d'un mois.
Oui. Oui, mais là, vous avez été entendu, en l'occurrence, oui.
On a été entendu, non. Moi, j'attends toujours gouvernement va donner comme suite. Ouais. En tout cas, on n'a pas été entendu des employeurs. Et ça, je le regrette. Je reproche quand même aux employeurs de ne pas être rentrés dans la négociation. On avait la possibilité, je pense, de négocier sur cette question de manière intelligente et efficace.
Ça, c'est le rôle de Geoffroy Roux-de-Bézieux qui n'est pas, qui est dans la confrontation, vous trouvez?
Je trouve regrettable que les employeurs ne soient pas en capacité de se mettre autour de la table. On a fait une proposition en termes de bonus-malus qui tenait vraiment la route et je pense que, y compris les employeurs, auraient dû y prêter une oreille plus attentive.
Voilà, Emmanuel Macron, président du pouvoir d'achat, en tous les cas, on sent que c'est son nouveau leitmotiv, hein, Yves Verrier, en conclusion, mot de la fin.
S'il nous annonce l'augmentation du SMIC ce soir, là, je pourrais vous dire oui.
D'accord, il y a peu de chance peut-être. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, était donc notre invité. Merci beaucoup. Dans un instant, allez, on change de registre, on va un peu partir en vacances. Notre invité, c'est Luc Reversade, il est président fondateur de La Folie Douce. Vous savez, ses restaurants et hôtels d'altitude, ça va nous faire rêver un peu, ça nous fera du bien.